Lorsque nous sommes médiums, des fulgurances peuvent nous aider à comprendre comment nos pensées et nos corps interagissent. En parallèle, la génétique est au cœur d'une véritable révolution. Au-delà de nos ancêtres, nos modes de vie influencent-ils notre ADN? Et nos émotions modifient-elles nos gènes? Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Nasrin Reza et Philippe Bobola pour explorer tous ces questionnements. Notre existence nous amène bon nombre de questions sur la réalité. Je m'appelle Sébastien Lilly et à l'âge de 20 ans, j'ai co-créé l'INRES, un espace de recherche qui s'autorise toutes les interrogations. Si la science ne progresse qu'en remplaçant le pourquoi par le comment, il existe pourtant un espace, si reculé qu'il soit, où ces deux questions se rejoignent et se confondent. Donner du sens à l'impossible, cultiver davantage de sagesse, ancrer les alternatives d'un monde conscient, voilà l'objectif de cette émission. Existentielle. Cher Philippe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Cher Nasrin, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci, très cher Sébastien.
Avant de commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement?
Alors, j'ai fait au départ des études de physique, de biologie aussi, d'anthropologie et de psychanalyse. Donc j'ai différentes casquettes. Mais avant tout, j'aime la vie. Il n'y a pas de compétition pour moi entre le savoir et la vie. Je préfère la vie au savoir. Mais le savoir m'a permis de mieux vivre.
Avant de commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement?
Je m'appelle Nasrin Reza. Je suis née à Zurich. J'ai grandi dans une culture diverse, une maman russe, un père iranien. Et je suis aujourd'hui intuitive médicale, thérapeute, auteure et conférencière.
Alors on va poursuivre ensemble avec la tradition d'ouverture de cette émission qui veut que nos invités ferment les yeux quelques instants afin de prendre un temps d'introspection tous ensemble. Nasrin, est-ce que vous voulez bien fermer les yeux? Vous avez donc un profil de scientifique pluridisciplinaire, vous avez fondé l'unité du savoir, une école. Est-ce qu'en étudiant la physique ou la biologie, vous avez découvert certains messages justement philosophiques ou extraordinaires sur la vie qu'il nous convient de garder?
D'une certaine façon, la vie résulte non pas des choses, mais de ce qui se passe entre les choses. L'entre les choses, c'est un concept philosophique, mais la vie réside plus dans l'interaction entre les molécules ou les cellules que dans les molécules ou les cellules isolées. Et c'est la même chose, les propriétés d'un matériau résultent des interactions entre les atomes et les molécules. On peut dire aussi que la sociologie, c'est l'interaction des individus entre eux. Donc ce qui m'a toujours passionné, c'est de comprendre le fonctionnement individuel et collectif.
Je pense que vous avez pénétré la complexité du vivant avec la science dure, mais d'année en année, vous êtes dirigé vers les sciences humaines, l'anthropologie, la psychanalyse et même le chamanisme. Pourquoi, du coup?
Au départ, j'avais pour but de comprendre la matière. Donc j'ai fait de la physique quantique, j'ai fait de la mécanique des fluides. Et puis après, je me suis rendu compte que les mathématiques ne me permettaient pas de comprendre la complexité du vivant. C'est une clé, mais pas uniquement la clé. Et donc, je me suis intéressé à l'arrière-plan culturel, puisque en entendant les conversations de laboratoire, on voit la façon de concevoir le monde. Est-ce qu'il existe un monde invisible ou uniquement un monde visible? La conception du temps, de la maladie. Donc, ça m'a amené à étudier l'anthropologie. Naturellement, dans l'anthropologie, le chamanisme a une place de choix. Donc, ça m'a amené à essayer de comprendre le chamanisme. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une convergence entre ce que la physique théorique nous dit et la façon de percevoir le monde des chamans. Alors, je ne transforme pas les chamans en êtres quantiques, je dis qu'il y a des voies convergentes. Et même en physique quantique, il y a la possibilité de mondes invisibles. Donc c'est intéressant d'avoir un dialogue entre des gens qui sondent le monde par leur être et les gens qui essayent de concevoir le monde à travers des concepts. Et puis, la psychanalyse m'a permis de comprendre un individu. Enfin, quand je fais le bilan de tout ça, ça m'a permis de me comprendre et comprendre les autres.
Alors aujourd'hui, on va parler d'épigénétique. Avant, parlons peut-être un peu de génétique. L'ADN est un brin long de 2 mètres, enroulé et compacté sur lui-même. Il contient tout le matériel génétique d'un individu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'ADN quand on souhaite connaître le rôle qu'il joue dans notre biologie?
Alors, vous avez donné la bande longueur, 2 mètres, mais ces 2 mètres doivent rentrer dans une cellule dont la taille est 1 million de fois plus petite que ces 2 mètres. Donc comment c'est possible? Comme un fil qu'on enroule autour d'un cylindre, l'ADN est entouré autour de protéines qu'on appelle les histones. Et ces histones jouent le rôle de cylindre de carton autour duquel on enroule le fil. Donc ces histones jouent un rôle important puisqu'elles sont capables de moduler l'expression des gènes. C'est-à-dire que les histones correspondant à un gène peuvent lui dire d'être allumé, à savoir synthétiser une protéine, ou au contraire d'être réprimé. Et ça a changé notre vision de la génétique, c'est pour ça qu'on parle d'épigénétique. C'est un terme qui était dû à Aristote au départ, il considérait qu'un individu, ça se forme progressivement. Et d'autres pensaient que l'individu, il est déjà tout formé, c'est la théorie de l'animalicule ou les ovistes, qui considéraient qu'un être humain était en taille réduite, soit dans le spermatozoïde, soit dans l'ovule. Et lui considérait que ça se développait progressivement. Et c'est en 1942 que Conrad Waddington a défini l'épigénétique comme un dialogue permanent entre l'environnement et les gènes. Donc, un gène, il peut être présent, mais s'il est réprimé, il est muet. Donc, le moteur qui indique à un gène d'être actif ou pas, ce sont les histones. Alors évidemment, un gène, quand il a sur lui, entre guillemets, par le biais des histones, des groupements chimiques qu'on appelle des méthyles, le gène, il est muet. Donc un gène hyperméthylé est muet, un gène hypométhylé est actif. Et donc à partir de là, on s'est rendu compte que le pilotage des gènes dépendait plus des histones que des gènes en eux-mêmes. Et ce pilotage pouvait inclure les chants, la musique, le mental, les croyances. Donc on a la possibilité, comme disait le Bouddha, de modeler et de façonner notre génétique.
Les histones, c'est quoi? C'est un petit collier de perles qui est...
C'est un collier de perles qui s'organise en 8 unités, qu'on appelle des octamères, et qui joue le rôle vraiment de cylindre. C'est une image qui permet à la ficelle d'être enroulée. Évidemment, comme les 2 mètres doivent rentrer dans une cellule qui est 1 million de fois plus petite qu'elle, il faut bien que l'ADN soit super enroulé. Donc quand l'ADN est super enroulé, les gènes, généralement, ne s'expriment pas. Et puis quand l'ADN se désenroule, les gènes vont pouvoir s'exprimer. Et donc les histones vont être le pilotage de cet super enroulement ou ce désenroulement, permettant ainsi un gène d'être exprimé ou pas.
Donc pour résumer, l'ADN c'est quoi? C'est une mémoire, c'est un code, c'est un générateur d'action?
C'est une mémoire potentielle, mais les histones jouent le rôle d'interrupteur. C'est comme une lampe, elle peut être allumée ou éteinte, donc la lampe joue son rôle. Ce n'est pas l'interrupteur qui va donner la lumière, c'est la lampe, mais l'interrupteur est nécessaire pour que la lumière arrive ou pas.
Vous vous êtes intéressé aux émotions depuis un long moment et à leur faculté de nourrir nos déséquilibres physiques. Pourquoi ce thème est-il si important pour vous?
Les émotions, pour moi, représentent ce qui relie tous les êtres humains. Même si je ne comprends pas la langue d'autrui, à travers son système émotionnel qui s'exprime sur son visage ou à travers ses gestes, je peux intuitivement ou émotionnellement me relier à lui. Il m'est possible d'engager, d'établir un contact très profond pour moi avec cet autre que je ne comprends pas à travers la langue.
Depuis quand vous avez cette perception intuitive du monde?
Depuis mon plus jeune âge. Depuis que j'ai la conscience d'habiter ce corps, en fait.
Je crois savoir justement qu'à l'adolescence, vous avez traversé ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, des moments difficiles. Est-ce que vous pouvez me parler de votre enfance, de votre jeunesse?
J'ai donc toujours été dotée de beaucoup de sensibilité. Je navigue à travers plusieurs sphères de conscience, au fait, 21 pour être plus précise, 21 différentes réalités qui se donnent simultanément à chaque instant. Et jusqu'à l'âge de 5 ans, je n'avais pas compris que ce n'était pas la réalité de tous mes congénères. C'est à travers une expérience inattendue que j'ai soudainement réalisé être un peu différente des autres. Et il y a eu beaucoup de souffrance par la suite parce que je me suis sentie très rejetée. À l'âge de 15 ans, je ne voyais plus véritablement le sens de poursuivre mon existence à travers ce corps physique. Et juste avant de commettre l'irréparable, il y a ces voix puissantes qui m'étaient tellement familières, qui se sont à nouveau adressées à moi. Et elles m'ont dit, « Nasrin, il faut que tu accueilles ce que tu es. Ainsi, nous pourrons t'aider à mettre en lumière ta nature profonde. » C'était tellement puissant que j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillée, plus rien n'était pareil. J'étais vraiment habitée par une profonde paix.
Et avant ça, alors, comment ça se passait à l'école? Comment ça se passait avec les autres? Les camarades, vous trouvez étrange, c'est ça?
C'est ça, oui. C'était plutôt compliqué parce que j'étais très spontanée, je le suis toujours. Et durant, par exemple, un cours de maths, d'un coup, je me suis levée et j'ai fait un bilan intuitif à mon prof de maths, ce qu'il n'a pas du tout apprécié parce que ses voix me donnaient beaucoup d'informations au sujet des personnes que je rencontrais toujours. Et voilà, donc à partir de là, je me suis ridiculisée officiellement devant tout le monde. Et donc, par la suite, ça a été très difficile parce que les gens me considéraient vraiment comme un extraterrestre, en fait.
Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces voix?
Ces voix, elles me disent d'innombrables choses. Ça dépend toujours ce sur quoi se porte mon attention. C'est toujours ce sur quoi se porte mon attention qui devient mon terrain d'expérimentation et d'observation. Donc ça dépend sur quoi je focalise ou défocalise. Ça peut être sur l'état physique, psychique, émotionnel d'une personne. Ça peut être en lien avec un lieu, peu importe.
Vous avez consulté du coup un psychiatre ou un psychologue à l'époque?
Oui, qui est d'ailleurs devenu l'un de mes meilleurs amis pendant quelques années avant qu'il ne me quitte. Et je me souviendrai toujours de ce premier entretien parce que il m'a regardée, il m'a dit « Nasrin, je suis désolée, mais je ne vais vraiment pas pouvoir t'aider. Je n'ai aucun outil, finalement, qui puisse t'aider à sortir de cette schizophrénie, bipolarité, peu importe, personnalité complètement dissociée. » C'est du moins comme ça qu'il m'étiquetait au début, jusqu'au moment où je lui ai fait un bilan intuitif et je lui ai parlé de sa maman qui était décédée, qui se tenait à côté de lui à ce moment-là. Et là, les étiquettes sont tombées. Il m'a dit, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément un problème psy chez toi. C'est vraiment d'une autre nature et je n'arrive pas à l'appréhender.
Et vous n'êtes pas cru folle, du coup, à un moment, face à toutes ces voix et toutes ces intuitions?
Ben, disons que jusqu'à l'âge de 5 ans, pas du tout. Je pensais que c'était propre à tout être humain. Je pensais que c'était normal, au fait, d'être en contact avec toutes ces informations, toutes ces mémoires, parce que pour moi, tout ça, c'est de la mémoire qui se reprojette. Et donc, jusqu'à l'âge de 5 ans, où on m'a finalement, de manière assez violente, fait comprendre que j'étais différente, c'est seulement là où les problèmes ont commencé.
Et du coup, après cette révélation dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change?
Ce qui change fondamentalement, c'est que je ne suis plus dans un état de lutte intérieure face à ce qui se présente à moi. Déjà juste d'un point de vue humain, il est vrai que lorsqu'on est dans la peur de ne pas être aimé, qui pour moi est un fléau, un virus qui a infecté la conscience collective de l'humanité, mais lorsqu'on n'est plus confronté à cette peur de ne pas être aimé, on retrouve finalement notre propre empreinte énergétique et notre propre sagesse, et notre intuition. Et à partir de là, tout devient très clair. On sait ce qu'on a à faire, on ne peut pas l'expliquer. Ce n'est pas explicable comme l'intuition, mais on sait ce qu'on vient faire ici, fondamentalement.
Vos peurs ont disparu soudainement ou c'est une transformation progressive, du coup, qui s'est révélée?
Ouais, elles se sont évanouies. en un seul instant parce que je ne faisais plus la guerre à ce que j'étais. Je ne faisais plus la guerre face aux émotions dites négatives. J'avais tout accueilli, d'où mon livre « Le pouvoir de l'accueil » qui est né à partir de là.
Alors vous êtes l'auteur depuis de plusieurs livres, dont celui-ci « La Nutri-émotion, une nouvelle voie de guérison et d'épanouissement ». Vous décrivez justement dans ce livre vos consultations chez tout un tas d'experts de la santé et vous dites qu'après de nombreuses recherches et la mise en application d'un processus spécifique, la solution vit enfin le jour. Cette transformation vous pousse à changer de vie et à changer de profession. En quoi consiste du coup votre nouveau travail ?
Mon nouveau travail, je ne peux même pas l'appeler comme ça en fait. Ce n'est même pas un travail, mais une passion. Une passion pour la sphère humaine, une passion pour surtout l'épigénétique, la biologie, les corrélations entre le système émotionnel et l'impact qu'elles ont sur cette entité-ci.
Mais vous vous définissez comme intuitive médicale, c'est ça ?
Oui, j'aime pas trop en fait les définitions, je trouve qu'elles sont toujours très réductrices, mais oui, dans ce monde-ci, on pourrait dire voilà, intuitive médicale.
Donc au fond, pour vous, entendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des gens, c'est quelque chose d'une normalité absolue.
Oui, on pourrait dire ça comme ça, exact.
En quoi ça vous aide du coup dans votre pratique de soins ?
C'est vrai que la thérapie intuitive, elle est très vaste et chacun a son approche, parce que chacun est doté de sa propre sensibilité, chaque être humain est unique en son genre, est doté de sa propre empreinte énergétique et donc il va fonctionner à sa façon. Je trouve qu'une approche intuitive nous permet vraiment d'aller sonder des espaces qui ne peuvent pas forcément être expliqués ni par les lois de la physique classique, ni par celle de la physique quantique. Ça nous donne davantage d'espace encore d'aller sonder des choses, je dirais, insoupçonnées qui peut-être aujourd'hui ne peuvent pas encore être vérifiées.
Vous utilisez ce don pour lire vos patients et déceler en eux des anomalies ou des déséquilibres. Mais du coup, on en fait quoi de ces données, de ces informations que vous percevez ?
Ces informations que je perçois auprès de l'autre me permettent en fait de mieux guider l'autre, de lui pointer du doigt des émotions. Il s'agit à nouveau surtout d'émotions, des émotions refoulées qui datent peut-être de son enfance, peut-être de lignée familiale. Et ces informations, en fait, quand on met la personne en contact avec ces émotions refoulées, il y a une ouverture qui se crée comme un nouveau champ de perception et d'expérimentation. Et donc tout ce que je capte finalement est restitué à la personne selon son ouverture, selon sa capacité d'accueil, parce qu'une personne traumatisée ne peut pas être abordée de la même façon que quelqu'un qui a un problème moindre. Donc on adapte cela, mais on transmet quand même toujours le fond du message et toujours « regarde cette émotion refoulée, elle a quelque chose à t'apprendre, elle a un message à te délivrer ».
À quoi ressemblent nos gènes ? Il faut savoir que la structure de l'ADN n'a été découverte qu'en 1953 par un biophysicien britannique, Francis Crick, et un biochimiste américain, James Watson. Ils s'aperçoivent alors que les chromosomes, qui sont enfermés dans le noyau de la cellule, sont plus ou moins compactés et s'enroulent autour des histones, des protéines qui structurent l'ADN. La génétique s'en voit alors bouleversée, puisque le tout forme cette fameuse double hélice qui permet la copie de notre matériel génétique.
On commence à comprendre que la forme de la double hélice, elle a des explications quantiques, hein, c'est des intrications entre les bases qui font que l'ADN a cette forme en double hélice. Le fait d'avoir une double hélice, ça a aussi des propriétés quand l'ADN se duplique, c'est-à-dire qu'une cellule mère donne deux cellules filles, les deux brins se séparent, chaque brin hélicoïdal va servir de matrice pour que le matériel génétique dédoublé soit équitablement réparti dans les deux cellules filles. Alors, on peut prendre un exemple peut-être plus concret. Randy Gertel, qui est un radio-oncologue, a fait une expérience. Il existe des souris qu'on appelle agouties, c'est-à-dire elles sont obèses, elles ont trois fois le poids d'une souris normale, elles ont un pelage un peu orangé. Et évidemment, agouties, parce qu'elles sont voraces, et du fait de leur voracité, elles ont des risques plus importants de développer des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc. On retrouve ça d'ailleurs dans certaines familles qui ont des gènes qui les prédisposent à ce genre de pathologie. Alors Andy Gertel a donné à ses souris de la vitamine B12, de l'acide folique et de la choline. Et donc les souris sont redevenues normales. Alors ce n'est pas ça le plus important, c'est que ces souris adultes sous supplémentation alimentaire, vitamine B12, choline et acide folique, ont eu des descendants et ces descendants n'ont plus besoin de la supplémentation alimentaire des parents. Donc il y a quelque chose qui a été transmis qui ne relève pas de la génétique au sens de la transmission innée des caractères, mais de l'épigénétique. Il y a une valeur qui a été transmise des souris adultes sous supplémentation alimentaire à leurs descendants. Et donc on s'est rendu compte que certains individus, alors aussi bien dans le monde des souris que dans le monde des adultes, quand il y a des maltraitances psychologiques, physiques, eh bien, il y a des gènes qui sont méthylés, donc rendus muets, et notamment au niveau de l'hippocampe et de l'amygdale, qui est impliqué dans la gestion de l'anxiété, du stress, du sentiment d'insécurité. Alors, dans le monde des souris, quand un jeune souriceau n'est pas suffisamment léché, eh bien, ça donne un adulte craintif, assez agressif, qui est peu curieux, il a peur d'explorer l'espace, et en période de stress, il ne sait pas du tout gérer son stress. Si au contraire, le souriceau a été convenablement léché par sa mère, ben c'est une souris adulte qui sera plus à même de gérer son stress. Et on s'est rendu compte qu'il y a un gène qui est rendu muet, c'est le gène qui va transporter le cortisol. Quand on est stressé, on produit du cortisol. Et ce cortisol a besoin d'un récepteur pour agir sur les cellules qu'il cible, notamment au niveau de l'hippocampe et de l'amygdale. Et comme il n'est pas présent, il y a un taux anormalement élevé de cortisol libre, sans récepteur, et c'est ça qui donne à la souris ce caractère agressif, craintif, qui ne sait pas gérer son stress. Alors il y a des expériences, je finis juste, qui ont été faites par Moshe Zif, et il a injecté certaines substances qui déméthylent et donc rendent à nouveau le gène actif, donc en mesure de produire le récepteur du cortisol, et ces substances, c'est des substances qu'on appelle acétyles. Et à ce moment-là, la souris qui était craintive redevient normale. Donc on voit bien la différence entre la génétique où il y a un caractère irréversible et l'épigénétique où il y a un caractère réversible, aussi bien par l'alimentation ou d'autres façons.
Il y a un paradoxe quand on parle de médecine intuitive, car on considère la médecine comme une science extrêmement factuelle qui essaie d'éviter toutes sortes d'erreurs en s'appuyant sur la raison. Et là, vous avez des informations qui sont profondément irrationnelles, finalement. Comment vous êtes sûr que ces informations sont exactes ?
En fait, j'ai toujours le retour de la personne, premièrement. Donc quand je lui transmets des informations, elle va pouvoir les valider. Si c'est dans son champ de mémoire, hein, parce que si c'est en lien avec d'autres lignées familiales, ce n'est peut-être pas activé au niveau de sa mémoire. Donc il y a déjà là un retour. Puis après, j'ai eu vraiment l'immense opportunité de pouvoir collaborer avec beaucoup de médecins, en fait. Des personnes que j'accompagnais, qui étaient suivies aussi par des psychiatres, des médecins, etc. Et donc, j'ai pu aussi faire valider ces informations par des diagnostics qui ont été faits par la médecine. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans un sens, parce que je suis de nature très sceptique et je n'avale pas tout cru, même les informations que je reçois. J'ai beaucoup de recul là-dessus et donc j'aime pouvoir valider les informations de la manière aussi la plus scientifique qui soit. Après, je n'arrive pas à tout expliquer. Voilà, je n'arrive pas à formuler cela ou à faire des équations mathématiques pour l'expliquer à quelqu'un qui ferait des maths. Mais j'arrive à le formuler d'une manière pour qu'on puisse s'entendre, même si le langage est différent.
Le saviez-vous ? Une grande partie de nos gènes sont non codants. C'est ce que certains scientifiques ont appelé l'ADN poubelle, pensant qu'il était un héritage par défaut de notre évolution. Pourtant, la recherche nous montre aujourd'hui qu'il existe des gènes sauteurs, c'est-à-dire des fragments d'ADN capables de se déplacer ou de se copier d'un endroit à un autre sur les chromosomes. C'est ce phénomène qui contribue à l'évolution des espèces, mais qui paradoxalement est aussi à la source de nombreuses maladies. Le mot ADN poubelle n'a donc vraiment plus de sens. Chez l'être humain, on dénombre environ 23 000 gènes, c'est ça ?
Oui, il y en a 23 688, en gros, on va dire 24 000 gènes.
Et parmi ces 23 000 gènes, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ADN non codant ou de l'ADN poubelle, comme on dit ?
Il y a 5% de gènes qui s'expriment, qu'on appelle des exons, et 95% qui ne s'expriment pas, qu'on appelle des introns. Et donc pendant longtemps, on a considéré que cet ADN était inutile. Maintenant, on s'aperçoit qu'il a un rôle capital dans la répétitivité des séquences. C'est un réservoir aussi pour pouvoir s'adapter à des situations que l'évolution a déjà rencontrées. Et donc, alors comment ça se passe, la génétique ? Donc vous avez l'ADN. Il va être transcrit, c'est une sorte de négatif en ARN messager, tout ça se passe dans le noyau de la cellule, il sort de la cellule, et il va être traduit en protéines. Mais pour que l'ARN messager soit traduit, il faut enlever tous les introns. Donc on appelle ça l'épistase génétique. Et donc si la nature a pris soin d'avoir 95% d'inutiles qui ensuite est enlevé pour que la traduction puisse donner une protéine active, c'est bien qu'il y a une raison. La nature ne fait rien par hasard. Donc elle a forcément un rôle, cette partie intronique, on n'a pas bien cerné, mais qui joue un rôle dans l'information génétique.
On a beaucoup entendu parler du mot ARN dernièrement. Quel rôle il joue exactement ? Il joue un rôle de transcripteur de nos gènes, c'est ça ?
La double hélice d'ADN, soit elle peut être répliquée, donc une molécule mère d'ADN donne deux molécules filles, ou alors elle va être traduite en protéine. Et pour être traduite, la double hélice d'ADN se transforme dans une molécule, simple brin, qu'on appelle l'ARN messager. Tout ceci se passe dans le noyau de la cellule. Le noyau des cellules humaines, et qu'on appelle d'une façon générale eucaryotiques, sont entourés d'une membrane avec des pores. L'ARN messager va sortir et aller rejoindre un organite qu'on appelle le ribosome. Et comme une bande de lecture, une bande de magnétophone, le ribosome va se déplacer le long de l'ARN messager et ainsi élaborer une protéine. Et donc l'ARN messager, c'est l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines.
C'est un relais.
C'est un relais. Donc le passage de l'ADN à l'ARN messager s'appelle une transcription et la traduction de cet ADN messager qui donne une protéine s'appelle précisément la traduction.
Comment vous avez été amené à collaborer avec des médecins ?
En fait, l'une des personnes que j'accompagnais était médecin. Et donc elle avait travaillé à la NASA notamment, mais elle était médecin. Et cette personne se retrouvait dans une situation en fait de déséquilibre physique qui n'arrivait pas à être expliqué par la médecine, par les personnes qui l'entouraient. La personne est arrivée très désespérée en disant « je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens mourir vraiment, physiquement ». Et donc, à travers les différentes consultations que j'ai eues avec elle, on a pu aller sonder son champ émotionnel, les croyances aussi, certains systèmes de croyances, et qui peut-être maintenaient aussi cette maladie qu'on n'arrivait pas vraiment à nommer en place. On n'a jamais d'ailleurs pu mettre de nom sur ces phénomènes vraiment très désastreux et désagréables que cette personne expérimentait. Mais on a pu observer la diminution, la disparition de ces symptômes. Donc ça a commencé comme ça et à partir de cette première rencontre, on m'a mis en contact avec d'autres médecins, etc.
Et comment ils vous faisaient intervenir du coup dans leur pratique ? Est-ce qu'il y a eu des ponts du coup entre ces deux mondes ?
Il y a eu des ponts anonymes. Parce que à l'époque, c'était il y a quand même une bonne quinzaine d'années en arrière, ce pont entre la médecine et les thérapies alternatives, ce pont n'existait pas encore vraiment. Et il était difficile aussi de pouvoir échanger même avec certains médecins parce qu'on ne me prenait pas en considération. Donc, je me suis présentée de manière anonyme, c'est-à-dire que ces médecins m'ont alors dit « Nasrine, je te donne le prénom, etc. de cette personne, est-ce que tu peux me dire ce que tu perçois ?» Donc, j'ai collaboré dans les coulisses très souvent.
Pour vous, il existe un triptyque corps, mental, émotion. Vous appelez ça une équipe. Pourquoi c'est une équipe et quels sont les échanges justement entre ces trois mondes ?
Oui, j'appelle cela l'équipe terrestre, vraiment. J'aime beaucoup cette notion d'équipe déjà, parce que je trouve que l'être humain a peut-être été coupé de certains aspects qui font de lui un être humain. Je parle ici de cette sensibilité qui lui est propre, notamment le système émotionnel. Et j'aime ce mot équipe parce que ça permet à la personne, au fait, de se remettre en contact avec toutes les facettes qui la constituent. Donc le corps, le mental, le système émotionnel, c'est cette trinité et qui communique ensemble et dont la santé et l'homéostasie reposent vraiment sur un équilibre et une communication qui va dans les deux sens. Ce que je veux dire par là, c'est que si le corps physique se retrouve déséquilibré, imaginons, il se retrouve déshydraté, ce qui est très souvent le cas dans notre société très stressée. Donc si le corps physique est déshydraté, cela va générer un état de stress. Cela va empêcher l'élaboration de certains neurotransmetteurs, tels que la sérotonine par exemple. Et donc le mental, ce qu'on peut appeler le mental ou le cerveau, ça dépend après comment, à quoi on réfère hein, ces mots, mais le mental va être inévitablement affecté par cette sécheresse qui se produit au niveau du corps physique. Et les pensées incessantes, très souvent parce qu'on se retrouve face à un mental très agité, hein, ces pensées incessantes, cette agitation, va déclencher aussi dans le système émotionnel des émotions dites négatives. Et ces émotions dites négatives vont générer, par un non-accueil émotionnel, parce que nous avons été entraînés quelque part par un conditionnement collectif à ne pas faire face et à ne pas accueillir nos émotions dites négatives, on préfère les gérer ou les mettre de côté, cet état de stress-là va générer davantage de déshydratation au niveau du système hydrique du corps. Donc c'est un cercle vicieux dont on parle ici, non pas d'un cercle vertueux, mais tout est intimement interconnecté, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre.
Ce que vous dites, c'est que nos émotions nourrissent nos déséquilibres et particulièrement nos émotions refoulées. C'est quoi une émotion refoulée du coup ?
Une émotion refoulée, alors on pourrait l'expliquer de différentes manières, mais une émotion refoulée, pour simplifier un peu, ce serait une émotion qui serait qui n'est pas acceptée par notre système de pensée. Donc dès l'instant, imaginons, je suis face à une tristesse, si j'observe à ce moment-là que quelque chose en moi dit non, que mon système de pensée, mon conditionnement, essaye de rejeter cette tristesse, ne me permet pas ce corps à corps avec cette émotion, j'appelle ça une inhibition, un refoulement émotionnel.
On assimile souvent l'hérédité à notre bagage génétique, sachant que l'hérédité, c'est vulgairement la transmission de caractéristiques d'une génération à la suivante. Quel est votre regard justement sur cette notion d'hérédité ?
Je pense qu'il y a une hérédité au sens inné du terme, il y a une hérédité au sens acquis du terme. Par exemple, le cancer des seins, c'est la femme. Est-ce que la peur de la mère est transmise à la fille ou c'est vraiment un gène qui est présent chez la mère et la fille? Et en fin de compte, l'Académie des sciences et l'Académie de médecine estiment qu'il n'y a que 5% des cancers qui sont héréditaires. 95% des cancers sont d'ordre environnementaux. Donc environnement, j'y intègre évidemment l'alimentation, la chimie, la physique, la radioactivité, mais également nos pensées. Donc on s'aperçoit que la durée de vie d'un individu, suivant son caractère, n'est pas du tout la même. Il y a un club aux États-Unis, le club des gens en colère. Ils peuvent avoir une différence de vie entre des gens qui sont plutôt épanouis de 35 ans. Et le taux de maladie n'est pas du tout le même. Donc nos pensées, positives ou négatives, si on les appelle ainsi, peuvent avoir un impact sur notre ADN. On s'aperçoit de plus en plus que dans une cellule cancéreuse, il y a des anomalies épigénétiques. Donc ça laisse l'espoir de pouvoir régler avec des médicaments, entre guillemets, ces problèmes épigénétiques qui font que, par exemple, dans une cellule cancéreuse, il y a un gène qui amène la cellule à se diviser, c'est ce qu'on appelle les oncogènes. Et s'il est déméthylé ou méthylé, ça ne donnera pas la même multiplication. Donc si on peut méthyler un oncogène, la cellule cancéreuse ne va pas se diviser. Et puis, il y a des anti-oncogènes aussi. Donc, s'ils sont réprimés ou actifs, ça permet aussi d'avoir une action sur les cellules cancéreuses. On a vu, par exemple, Ariane Jacobino est une généticienne suisse. Elle a montré, par exemple, qu'une femme violée a une fille. La fille ne sait pas que la mère a été violée. Elle a peur du viol, alors que ça fait partie des secrets de famille. Et c'est augmenté. Et ça va jusqu'à 3 générations. La petite fille aura encore plus peur du viol que sa mère. Donc il y a une espèce de transmission de ce qu'on pourrait appeler une cicatrice émotionnelle. Donc on sait, par exemple, qu'il y a des familles qui transmettent la dépression. Donc la différence, c'est que c'est réversible.
Face à la maladie, on ne lutte pas. C'est un peu votre mantra et on comprend mieux pourquoi la notion d'accueil est importante. Mais vis-à-vis des émotions, comment les accueillir, justement ?
Permettons à cette émotion, si négative soit-elle, de juste être là. De pouvoir la reconnaître, de pouvoir lui donner un espace pour qu'elle puisse se manifester est pour moi une première étape. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que le corps physique soit hydraté. Donc, pas stressé. Parce que si le corps physique est stressé, ça génère un refoulement émotionnel. Donc, il faut jouer sur plusieurs plans. D'une part, il faut que la personne puisse être suffisamment hydratée. Et avant de lui demander d'accueillir une émotion, en règle générale, je lui tends un verre d'eau. Je dis, on va boire cette eau en conscience, très important, de manière relaxée. Comme ça, le système cellulaire va pouvoir recevoir une nouvelle source d'énergie. Et à partir de ce moment-là, la personne, d'ailleurs elle le remarque très souvent aussi, a beaucoup plus d'aisance finalement à prendre contact avec son système émotionnel. Et souvent les gens me disent, mais je ne sais même plus ce que c'est d'être triste, je n'apprends plus la colère, je ne sais pas quel goût elle a. Mais quand elle augmente leur taux hydrique, tout à coup elles me diront, ben oui, au fait, je sais ce que c'est que le goût de la colère. Donc accueillir une émotion passe par une approche autant intellectuelle que physique, donc par une absorption d'eau plate et aussi par un état relaxé au niveau du corps physique.
Vous savez ce qui se passe dans les cellules quand elles sont hydratées ?
Je ne pourrais pas dire que je sais, je ne peux pas prouver cela scientifiquement, mais on me le montre. Donc quand on me montre toutes ces choses, c'est comme des hologrammes en fait. Il y a tout qui se superpose et puis j'ai l'impression de naviguer à travers le système cellulaire de l'autre. Mais ce qui se produit, notamment pour ce qu'on me montre, c'est que tout est toujours en mouvement ici dedans. Rien n'est jamais statique. D'ailleurs, c'est à partir de cette première, je dirais, révélation, qu'on sait qu'on ne peut pas imputer des lois au corps physique, on ne peut pas le considérer à travers des statistiques parce que c'est un être en perpétuelle évolution. Donc tout est toujours en mouvement. La double hélice d'ADN est en mouvement, la cellule est en mouvement, les fluides sont en mouvement, tout est toujours en mouvement. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un accueil émotionnel, on voit les portes, les aquaporines plus précisément, en fait, les aquaporines qui se retrouvent dans un état où elles permettent le passage de l'eau à l'intérieur de la cellule. Cette eau, mais pas spécifiquement l'eau, plutôt les liaisons hydrogènes, parce que c'est surtout ce qui m'intéresse. Moi, quand je parle d'eau, c'est pour vulgariser quelque chose de plus complexe. Mais ces liaisons hydrogènes, en fait, vont permettre une communication entre l'ADN, donc cette double hélice, l'eau, qui est pour moi un champ d'information, parce qu'elle permet d'enregistrer, de mémoriser, de restituer de l'information. Donc il y a cet ADN, ces liaisons hydrogènes, en fait, vont permettre une communication entre l'ADN, l'eau, et puis après, ce fameux octamère d'histone, dont on ne parle pas assez pour moi, qui sont ces protéines de base et qui permettent l'enroulement de l'ADN. Alors qu'est-ce qui se passe quand je suis dans un état relaxé? Cet octamère de protéines d'histone, en fait, permet le relâchement de l'ADN. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est que ça s'ouvre. Ouvre cette vaste bibliothèque qu'est l'ADN, quelque part ouvre ses portes à la lecture. Donc c'est un résumé de ce que je peux percevoir à ce moment-là.
Un nouveau paradigme assez prometteur se dessine. Pourquoi ? Parce que l'épigénétique, qui est étroitement liée à notre mode de vie, à notre alimentation, à nos émotions ou à nos croyances, peut nous permettre un très fin contrôle de l'action de nos gènes. On l'observe par exemple avec des jumeaux au patrimoine génétique identique. Chacun peut évoluer différemment en fonction de son environnement respectif et a donc ses propres cartes en main en matière de santé. Donc ça veut dire que ce sont nos émotions, nos pensées, notre mode de vie. Jusqu'où ça va en fait ?
On s'aperçoit que l'approche vibratoire peut modifier l'épigénétique, les croyances peuvent modifier l'épigénétique, évidemment l'alimentation peut modifier l'épigénétique, les histoires de vie peuvent modifier l'épigénétique. Donc ça redonne le droit à l'environnement par rapport aux gènes. Et donc ça donne d'une certaine façon raison à Lamarck, le chevalier de Lamarck, qui lui pensait qu'il y avait une possibilité de transmission acquise des caractères. On a souvent caricaturé sa vision avec la girafe qui a un grand cou, parce qu'elle est tellement vorace qu'elle a fini par devoir aller chercher les feuilles qu'elle mange dans les arbres de plus en plus haut, d'où à l'allongement du cou. Alors August Weismann avait cru mettre fin à la théorie de Lamarck en coupant la queue de souris en regardant sur 21 générations si une souris dont la queue est coupée avait des souriceaux avec une queue coupée. Mais enfin, Lamarck n'a jamais dit que c'était rapide. 21 générations, ça s'est étalé sur 5 ans. En fin de compte, il avait raison. Alors l'évolution de la biologie lui donne raison. On ne sait pas s'il voyait ça comme ça, mais en tous les cas, l'environnement joue un rôle qui est déterminant dans la façon dont notre génétique s'exprime. On pourrait dire que l'expression des gènes n'est pas uniquement due au code de l'ADN en lui-même, mais par un assortiment de protéines, les histones, même des micro-ARN qui circulent et qui indiquent un gène où et quand s'allumer ou s'éteindre.
Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait alors ?
C'est à nous de changer peut-être, de comprendre déjà que nos pensées sont déterminantes. Hein. Si vous avez une action sur votre ADN, peut-être des traits de caractère sont à changer. Après, il y a peut-être un traitement à faire, il y a des traumatismes à enlever, enfin, il y a plein de choses. Donc enlever un traumatisme, ça n'a pas simplement un impact sur la psychologie, mais ça a un impact jusque au niveau de l'ADN.
Vous avez une idée d'où proviennent nos émotions ? C'est quelque chose d'assez mystérieux, puisqu'on ne réagit pas tous de la même manière face aux situations.
Oh, c'est là une merveilleuse question, vaste sujet, et je pense qu'on pourrait répondre selon la personne qu'on a en face de nous. Je crois qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'êtres humains à ce sujet. Bien que les émotions se présentent différemment, bien évidemment, parce que je crois que chaque être humain à nouveau est doté de sa propre empreinte énergétique. Quand je parle d'empreinte énergétique, en fait, je parle de sa configuration d'eau. Parce que pour moi, chaque être humain a un champ de cohérence d'eau qui lui est propre. Et donc, son système émotionnel va réagir à cela. Déjà, sa propre énergie. Puis après, il y a l'influence aussi de tout ce bagage héréditaire, de tout ce conditionnement, de tous les refoulements émotionnels qu'il y a eu avant ma naissance et qui vont faire que je serai peut-être plus sensible à une émotion que quelqu'un d'autre. Imaginons, mon père a souvent lutté contre la tristesse. Il ne s'est jamais donné le droit d'être triste. Au niveau épigénétique, on peut aujourd'hui observer cela aussi grâce au taux de méthylation qui est inscrit au niveau de notre ADN et on peut observer qu'un refoulement émotionnel peut être transmis d'une génération à une autre. Alors si j'ai un père qui, par exemple, ne se donnait jamais le droit d'être triste, j'ai un fort potentiel en moi d'avoir plus de refoulement en lien avec la tristesse. Cela veut dire très souvent que je vais être beaucoup plus enclin à une expérience de tristesse que quelqu'un d'autre. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte pour pouvoir répondre à cette question, très cher Sébastien.
Plutôt dans notre bagage familial ou plutôt dans notre histoire de vie, ou les deux, à quel moment finalement se cristallisent un petit peu nos traumas quelque part ?
Pour moi, un traumatisme est le plus haut degré de lutte expérimentée. Donc, quand une émotion se cristallise, pour moi, elle peut seulement se cristalliser au moment où il y a cet état de combativité qui est vraiment à son plus haut degré. Donc je vis une situation terrible, il y a énormément, imaginons, de peur qui se déploie à travers cette expérience, et je vais vouloir me maintenir très très loin de cette peur pour pouvoir aussi me protéger. On parle aussi d'instinct de survie, bien évidemment. Mais ce qui se produit à ce moment-là, c'est que ça s'inscrit, c'est du moins comme ça que je le perçois, c'est que ça s'inscrit vraiment au niveau de notre système génétique, plus précisément au niveau des histones. Et que cette inscription, en fait, cette cristallisation, génère une déshydratation au niveau cellulaire, à différents endroits, à différents organes, parce que nos organes fonctionnent aussi selon notre propre empreinte énergétique. Et donc, je ne peux pas partir du postulat qu'un traumatisme en lien avec la peur va peut-être générer un dérèglement au niveau du foie pour tous les êtres humains. Ce sera peut-être le cas chez moi et pas pour Sébastien. Donc, il y a à nouveau beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais la cristallisation, j'aime bien d'ailleurs ce mot parce que j'aime me référer à ce corps physique comme étant liquide quand il est détendu, sous forme gelée, quand il est crispé. Et quand je suis dans un état de lutte, je suis crispée. Je suis dans la plus grande tension physique possible. Et donc, ça s'inscrit à travers cette tension-là au niveau du système génétique.
Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'épigénétique et la sensibilité? Est-ce que les personnes sensibles ont davantage la capacité de modifier leurs gènes face au bonheur ou même au contraire face à la violence, que ce soit positif ou négatif?
Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont plus de résilience, c'est un terme un peu à la mode depuis Boris Cyrulnik, ils ont une capacité de pouvoir rebondir. Ça vient aussi de l'épigénétique, vous avez des gens, ils sont cristallisés sur le passé, et ils n'arrivent pas à décoller du passé, d'autres, on a l'impression qu'ils sont un peu téfales, ça n'accroche pas et ils rebondissent. Je pense qu'on a des façons différentes de gérer notre stress. Une des grosses carences de notre éducation, c'est que les enfants, on ne leur apprend pas à gérer leur stress. Un stress, ça s'apprend à être géré, on peut enlever un traumatisme, il y a différentes techniques. Hein. Ça va de l'EMDR en passant par Tipeee, EFT, etc. On sait que maintenant qu'on peut limiter ou diminuer, voire supprimer l'impact d'un choc émotionnel. Sauf que dans l'éducation qu'on reçoit, on n'apprend pas ça, du tout, du tout.
Alors d'un point de vue pratique, comment on peut faire pour être dans cette fluidité-là?
L'hydratation, boire de manière consciente. Des exercices d'assouplissement, très importants aussi. Notre corps physique, à cause du stress, est terriblement tendu durant toute la journée. Donc de faire des exercices d'assouplissement, du yoga, même de la méditation, quelque chose qui puisse amener à un état de relaxation pour que l'eau puisse entrer dans le système cellulaire et pour qu'elle puisse transmettre les informations propices à l'épanouissement. Puis après, je crois que c'est aussi de pouvoir se relier à ce que j'appelle notre pouvoir d'accueil, avec lequel nous sommes nés, parce que si on observe un enfant en bas âge, on se rend compte qu'il n'est jamais dans un état de lutte face à son système émotionnel. Quand il y a la colère, il exprime la colère, et parfois au bout d'une minute, la colère, voilà, a été accueillie. Son système a intégré cette information, et donc elle passe à l'arrière-plan. Donc, vraiment se rendre compte que nous ne sommes pas nés dans un état de combativité intérieure et que c'est peut-être à cause de cet état de combativité que nous sommes dans un stress, que nous sommes déshydratés et que nous sommes dans une agitation qui n'est pas productive pour pouvoir goûter à l'épanouissement.
Ces prises de conscience peuvent-elles nous amener à vivre plus longtemps en meilleure forme? Justement, les extrémités de nos chromosomes, qu'on appelle aussi les télomères, sont à la base du vieillissement cellulaire, car leur raccourcissement empêcherait à nos cellules de se reproduire. Heureusement, certaines études montrent que la méditation et un travail sur l'esprit peut nous aider à garder nos télomères grands et frais, comme en témoigne Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine.
Une cellule, elle a une durée de vie limitée. C'est la découverte de Leonard et Flick, un biologiste américain, qui s'était rendu compte que les cellules humaines, elles ont entre 60 et 120 divisions. Au bout de 120 divisions, elle meurt. Et en fin de compte, un chromosome, c'est comme un X un peu déformé. Et dans la partie terminale, il y a des séquences répétitives qu'on appelle des télomères. Et ça diminue à chaque division cellulaire. Et quand on atteint un stade critique de diminution, la cellule meurt. On perd à peu près 1% par an. Alors, il y a des exceptions. Les cellules souches totipotentes, comme l'ADN, n'ont pas cette diminution de télomères. Il y a une enzyme, une télomérase, qui réallonge ce qui a été coupé. C'est un peu le mythe de Pélénope, hein, à l'envers. Au lieu de défaire son ouvrage, on réallonge ce qui a été réduit. Les cellules cancéreuses ont cette possibilité. Les cellules perdent cette possibilité quand elles se spécialisent. Alors on a pu objectiver que quand on fait de la méditation, eh ben on peut réallonger nos télomères. Et sous l'effet d'un choc, il y a des études qui ont été menées et qui ont montré, ces études d'Apple, qu'une femme qui perd un enfant, c'est un des drames les plus importants pour une mère, eh ben elle peut perdre, en termes de réduction télomérique, entre 9 et 17 ans. C'est-à-dire il y a une désynchronisation entre le rythme auquel elle devrait diminuer ses télomères, une accélération du fait d'un traumatisme comme la perte d'un enfant, par exemple.
Et vous avez un conseil pratique pour observer peut-être ces schémas, visualiser justement peut-être un mieux-être? Comment vous travaillez avec vos patients sur ces questions?
Ça dépend à nouveau de la personne. Je n'aime pas, personnellement, utiliser la visualisation parce que souvent, j'ai eu très souvent des personnes qui me disaient « Mais je souffre de tels problèmes. Si je visualise un corps sain, est-ce que ça va aider ?»« Ah, améliorer la situation. » Et je leur disais toujours « Mais là n'est pas la question. » La question n'est pas « Est-ce que la visualisation aide le corps physique à guérir ?» La question est « Pourquoi est-ce que tu utilises cet outil ?» Et la personne se rend compte qu'elle utilise l'outil de la visualisation pour lutter contre ce qui est vécu à cet instant. Donc je ne suis pas trop dans l'imaginaire et on va les visualiser. Je préfère vraiment être dans quelque chose qui est… On va ressentir ce qui se déploie maintenant. On va ressentir et permettre à ce qu'on ressent de prendre sa place quelque part, de juste laisser s'exprimer cette chose, quelque part de reconnaître que le corps, le mental et le système émotionnel, cette merveilleuse équipe terrestre, ce ne sont pas des employés. Il faut aussi prendre ça en compte. Ce ne sont pas des employés que je peux remplacer quand j'ai envie. Ce sont trois guides, trois sages. Et j'ai envie de m'asseoir au pied de ces guides pour pouvoir les écouter, parce qu'ils ont d'innombrables choses à me transmettre. Donc au fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rééquilibre aussi un peu ce rapport entre la personne et son équipe terrestre, pour qu'elle puisse être à l'écoute, sans amener trop d'imagination non plus.
Le message, c'est qu'on est le chef d'orchestre de notre corps, que nos pensées sont comme des musiciens qui permettent à notre ADN de fonctionner harmonieusement ou pas. Que la pensée positive ou la pensée négative, alors même si c'est un peu caricatural, ça a des conséquences sur notre ADN. La preuve, on voit bien, par exemple, on a fait des études, on a pris 4 groupes. Un groupe qui est caractérisé par une dépression chronique, un deuxième groupe où les gens oscillent entre le blâme et la colère, d'autres qui oscillent entre la colère et la dépression, et enfin un groupe qui est plutôt harmonieux. Et on s'aperçoit que l'incidence des maladies n'est pas du tout la même. Vous avez le groupe, le troisième groupe, ceux qui alternent entre la colère et le désespoir, ils peuvent avoir plus de cancers, ils ont plus de maladies, 15% de maladies en plus, une durée de vie beaucoup plus courte. Je vous citais l'exemple d'un club, des gens en colère, ils s'entretiennent dans leur colère. Il y a 75% de cancers en plus, 15% de maladies cardiovasculaires en plus par rapport au dernier groupe. Et on peut avoir jusqu'à 35 ans de diminution de vie. Donc c'est nous qui entretenons bien ou mal notre ADN par nos pensées.
En quoi nos prises de conscience peuvent nous aider à nous libérer de notre bagage héréditaire ou face aux émotions refoulées? Qu'est-ce qui se passe quand on a une prise de conscience, justement? On entre dans l'accueil?
Oui, quand on a cette prise de conscience et qu'on entre dans l'accueil, il y a un détachement qui se crée, une désidentification, j'appelle ça. C'est-à-dire que, à travers cette prise de conscience, je peux observer la chose sans forcément m'associer ou m'identifier à elle. Je n'en fais donc plus un problème personnel, parce que je vais fondamentalement réaliser que tous les problèmes auxquels je fais face, en tant que cette entité séparée, ce sont des problèmes qui existent depuis que la mémoire existe, depuis que l'humanité existe. Donc je n'ai pas forcément beaucoup de problèmes personnels à gérer. La majorité des problèmes sont du bagage héréditaire. C'est de la mémoire qui se retransmet d'une génération à une autre, culture, race confondue. Donc je vais avoir une meilleure vue d'ensemble sur ce que je viens d'accueillir. Je vais pouvoir avoir une relation beaucoup plus harmonieuse avec elle parce que je ne suis plus sur le pied de guerre, parce que je n'ai plus envie de l'anéantir. Et ça, ça détend tout le système intérieur. Ça permet le déroulement de l'ADN, la lecture de l'ADN, ça permet l'augmentation du système hydrique du corps physique. Donc, il y a dans ce plan-ci une conscience qui m'est propre en tant que Nasrin, il y a une conscience qui est propre aussi à Sébastien. Et il y a derrière cela encore une conscience qui englobe toutes ces petites consciences. C'est un peu comme la goutte d'eau et l'océan. Il y a donc quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est doté d'une intelligence que j'arrive à appréhender quand je ne suis pas identifiée à ce plan-ci, parce que je n'arrive pas à traduire cela en mots humains. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus vaste et qui régit ce plan qu'on appelle la vie, et qui interconnecte des milliards de scénarios ensemble, pour pouvoir donner la plus belle symphonie qui soit possible.
Je vais prendre un exemple personnel. Mon beau-père est mort à 102 ans, donc c'est quelqu'un qui avait fait les camps. Il avait un moral d'acier, une résilience. Il a perdu sa femme qui avait 95 ans. On s'est dit, il va mourir. Ben non, il a trouvé sa façon de résilier parce qu'il avait un mental d'acier. Et donc le mental est vraiment l'élément le plus important. Hein. C'est comment on voit le monde.
Mais est-ce que ça se construit un mental ou est-ce qu'il y a quelque chose aussi de propre à la conscience, de propre à...
Ben, je crois qu'on est au carrefour du collectif et de l'individuel. Il y a des périodes où, en crise économique, on a une morosité ambiante. Peut-être que la résilience d'un individu, c'est la capacité qu'il a de se séparer de ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère, hein, une espèce de mental global qui plombe... une société. On voit bien d'ailleurs, l'Argentine a connu une crise qu'on risque de connaître et leur façon de relationner les uns avec les autres, la notion d'unité, d'entraide, de collaboration, de coopérativité, a fait que cette crise, elle a eu l'impact sur les individus, mais peut-être moins que si vous avez une société qui a été individualiste pendant des années et qui a du mal à retrouver ce que les Allemands appellent le Gemeinschaft, Gefühl, c'est-à-dire le sens communautaire.
Bah, c'est une belle conclusion. Merci Philippe, c'est déjà la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Unité du Savoir. Vous proposez des formations pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Peut-être un petit mot sur l'Unité du Savoir.
Oui, j'ai créé un enseignement que j'aurais voulu recevoir, puisque finalement j'ai glané pendant des années des informations. Donc j'ai créé cette école qui s'appelle l'Unité du Savoir. Vous pouvez aller sur mon site unitedusavoir.com. Vous y trouverez le programme de la première année et de la deuxième année. Donc on enseigne tout ce qui est utile à savoir pour bien vivre. Ça va de la spiritualité, des sciences humaines, de la matière, évidemment de la physique quantique très populaire. Donc ici, on essaye d'avoir un regard global. Et les gens prennent le relais et ils arrivent à fouiller des fois des sujets qu'on a abordés de façon presque plus profonde que ce que j'ai donné comme impulsion, en n'ayant pas forcément au départ des diplômes pour s'inscrire. Tout simplement, c'est une curiosité, un état d'esprit. On est étudiant à vie, c'est peut-être l'avantage de l'autodidacte.
Ah ben merci beaucoup Nasrine, c'est déjà la fin de notre entretien. Je rappelle que votre livre « La Nutriomotion, une nouvelle voie de guérison et d'épanouissement » est sorti il y a quelques temps déjà aux éditions Erol. Est-ce que vous souhaitez peut-être rajouter un dernier mot pour nos abonnés ?
J'invite toute personne à pouvoir se relier à son équipe terrestre, parce que cette équipe terrestre a tellement de choses à révéler. Et elle peut nous aider à vivre une vie épanouissante si nous collaborons avec elle à travers notre pouvoir d'accueil. Voilà ce que je souhaite à tout un chacun.
Merci beaucoup pour ces conseils et pour votre présence. Pour notre rituel de fin, je vais vous demander à nouveau de fermer les yeux. Le temps pour moi de souhaiter à tous nos abonnés un bon retour dans le monde réel. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'Existentiel. Chers abonnés, chère Nasrine, cher Philippe, vous pouvez rouvrir les yeux.